Donc je vais maintenant donner la parole à Philippe Descola, qui est l'organisateur du colloque. Il n'est peut-être pas vraiment besoin de le présenter. Il est professeur ici au Collège de France, titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature, et aussi directeur d'études à l'EHESS. Et son exposé s'intitulera « De la nature universelle aux natures singulières, quelles leçons pour l'analyse des cultures ?» À toi Philippe.
Merci Pierre-Michel. Les sciences sociales ont conquis leur domaine d'exercice au XIXe siècle grâce à une sorte de yalta ontologique. Il était possible et nécessaire de rendre compte de la diversité des pratiques et des institutions humaines, donc de la contingence des usages du monde, puisque les lois décrivant le fonctionnement physique de ce même monde en garantissaient l'unicité. Complètement dissocié des conventions humaines, l'univers physique devenait l'arrière-plan sur le fond duquel pouvaient se détacher avec plus de netteté les particularismes des civilisations. Le relativisme culturel, ce principe de méthode qui veut que les valeurs d'une culture ne puissent servir de gabarit pour en étalonner une autre, devenait ainsi légitime et fécond, puisqu'il était entendu par ailleurs que si chaque culture jetait un regard qui lui était propre sur la nature, celle-ci, en revanche, était partout constituée des mêmes réalités aux régularités rassurantes, connaissables par des méthodes éprouvées et réductibles à des lois immanentes. Chaque culture sauf la nôtre, évidemment, puisqu'elle avait inventé la science et sa condition de possibilité, à savoir l'universalisme naturel. Bien que beaucoup peinent encore à l'admettre, ce dispositif a fait long feu, car l'on s'est peu à peu aperçu que le grand partage lui-même était relatif, que le découpage du monde qu'il opérait n'avait rien d'universel, ni même de proprement scientifique, puisqu'il aboutissait à ériger une cosmologie historiquement contingente, que j'ai appelée le naturalisme moderne, en modèle de tous les autres. On prenait ainsi pour acquise comme une donnée universelle de l'expérience notre réalité à nous, nos façons d'établir des continuités, des discontinuités dans le monde et d'y déceler des rapports constants, nos manières de distribuer entités et phénomènes, processus et modes d'action dans des catégories qui auraient été prédéterminées par la texture et par la structure des choses. Certes, les sciences sociales n'appréhendaient pas les cultures non modernes du passé et du présent comme des analogues complets de la culture moderne. C'eût été bien peu vraisemblable. Elles les voyaient, elles les voient encore dans une large mesure, à travers le prisme d'une partie seulement de notre propre cosmologie, comme autant d'expressions singulières de la culture en tant qu'elle fait contraste avec une nature unique et universelle, des cultures très diverses donc, mais qui répondent toutes au canon de ce que nous entendons par cette double abstraction. Et parce qu'il est enraciné dans nos habitudes, cet ethnocentrisme est fort difficile à extirper, même pour des anthropologues. À leurs yeux, et jusqu'à récemment, comme l'anthropologue américain Roy Wagner l'a fort bien dit, les cultures périphériques de l'Occident moderne, je le cite, n'offraient pas des contrastes ou des contre-exemples à notre culture en tant que système total de conceptualisation, elles suggéraient plutôt des comparaisons quant à d'autres manières de traiter notre propre réalité. Car c'est évidemment en anthropologie que se font sentir au premier chef les conséquences dommageables d'employer une constitution dualiste pour décrire des mondes qui ne le sont pas. Dire des peuples d'Amazonie ou de Nouvelle-Guinée que leurs sociétés sont proches de la nature, comme on le lit encore trop souvent, n'a littéralement aucun sens, puisque la nature n'existe pas pour eux comme une réalité séparée et qu'ils ne conçoivent pas l'assemblage d'humains et de non-humains au sein duquel ils vivent comme une société dans l'acception que la philosophie politique européenne a peu à peu donnée à cette notion. C'est pour cela qu'il faut approfondir sans relâche le travail de critique et de relativisation des concepts en usage dans les sciences sociales. Des notions clés de ces disciplines comme culture, nature, société, histoire, économie, politique, religion, art, etc. Ces catégories, elles ont permis, sans aucun doute, d'éclairer notre propre condition collective d'Européens et de mettre des mots sur certaines des réalités qui étaient en train de prendre une autonomie perceptible entre le début du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, une période cruciale durant laquelle ont été forgés bien des concepts qui ont permis à l'Europe de se définir réflexivement en tant que collectif ancré dans un processus historique. Ces concepts sont donc tout sauf transhistoriques. Ils sont le produit d'une histoire sociale et culturelle tout à fait singulière, celle de cette péninsule à l'extrême ouest du continent asiatique que l'on appelle l'Occident. Intrinsèquement liés au destin sociopolitique de l'Europe moderne, ces outils réflexifs ont pourtant été réemployés par les sciences sociales pour décrire et expliquer des sociétés non européennes, comme si leur validité descriptive était universelle, comme si nos sociétés pouvaient servir d'étalon pour qualifier toute forme d'association. Alors la coloration eurocentrique persistante de bien des concepts en usage dans les sciences sociales montre au fond bien que le principe du relativisme méthodologique qui avait été développé par l'ethnologie dès le début du XXe siècle n'a pas été mené à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la remise en cause du schème général au sein duquel nos propres valeurs et institutions avaient pris forme. Et ce cadre général, c'est l'ontologie qui nous est familière, que j'ai appelée le naturalisme, une ontologie où, contrairement à d'autres, il y a des sociétés, il y a de la nature, il y a une destinée historique, il y a des habitudes culturelles, il y a une séparation nette entre le social et l'économique, entre les choses et les personnes, ou entre la connaissance scientifique et la croyance religieuse. Faire le constat du caractère historiquement contingent de cette ontologie naturaliste ne revient pas à défendre un hyper-relativisme ainsi qu'on l'entend parfois. C'est au contraire vouloir promouvoir la mise au point d'outils analytiques qui seraient le plus possible indemnes des particularismes historiques dont sont actuellement grevés les concepts des sciences sociales. Des termes comme gravitation ou photosynthèse ont une validité universelle. Ce n'est pas le cas de notions comme société, culture ou nature. Or, encore jusqu'à maintenant, la plupart des études anthropologiques portant sur l'organisation sociopolitique des peuples qui demeuraient au seuil de, ou qui demeurent toujours au seuil de la modernité, continuent à traiter leurs institutions comme si elles étaient exclusivement chargées de régir les relations entre humains sur le modèle de la société civile occidentale. Et pourtant, la différence considérable entre les cosmopolitiques non modernes et les opérateurs politiques modernes tient au fait que les premières, les cosmopolitiques non modernes, sont en mesure d'intégrer les non-humains dans les collectifs ou de voir dans les non-humains des sujets politiques agissant dans leur propre collectif. Autrement dit, les genres d'êtres communs qui en résultent ne sont pas ceux auxquels nous sommes habitués. Ce sont des associations d'humains et de non-humains qui peuvent prendre des formes très diverses et qui, en ce sens, peuvent aussi nous offrir matière à réflexion sur la transformation de nos propres institutions politiques. Par exemple, si l'on examine quelles sont les composantes de ce que les ethnologues appellent un groupe de filiation, un clan, un lignage ou toute autre unité analogue, non pas telle que l'anthropologie le définit de façon usuelle, à savoir un ensemble d'humains issus d'un ancêtre commun, mais telle qu'un peuple ou de semblables unités existent, les conçoit effectivement, alors on s'aperçoit qu'elles contiennent bien plus que des humains. J'en évoquerai rapidement deux cas. Chez les peuls Wodabé du Sahel, le terme doudal désigne ordinairement, sous la plume des ethnologues, une fraction de lignage, à savoir la plus grosse unité segmentaire fonctionnant comme une personne morale. Toutefois, et comme Angelo Bonfiglioli l'a bien montré, doudal désigne à la fois une lignée d'humains et une lignée de zébus, que les humains ont sélectionné au fil des générations, de sorte que, comme il l'écrit, le troupeau est un langage par lequel l'ordre social peut être exprimé et sacralisé. J'irai plus loin que lui. On voit bien dans la description que Bonfiglioli donne de la coexistence entre le doudal lignage et le doudal troupeau qu'un groupe d'humains, le doudal lignage, et un groupe d'animaux domestiques, le doudal troupeau, forment une totalité continue et imbriquée qu'un même terme désigne. Le cas de ce que, dans les Andes, on appelle un ayllu est encore plus frappant. Ce terme quechua, ayllu, est traditionnellement défini comme un groupe de parenté, un lignage ou une communauté autochtone possédant une assise territoriale et s'engageant dans des actions communes, notamment en matière rituelle, mais aussi d'aménagement terroir. Alors, lorsque l'on regarde en détail l'ethnographie des communautés andines, il est évident qu'un ayllu, c'est beaucoup plus qu'un groupe humain. Il comporte aussi des plantes, des animaux, des esprits du lieu et bien d'autres choses encore. Écoutons ce que dit à ce propos Justo Ocha, qui est un Amérindien de la région de Cusco. Je le cite, « Un ayllu, c'est comme un tissu, et toutes les choses du monde, les gens, les animaux, les montagnes, les plantes, sont comme les fils qui forment les motifs. Les êtres de ce monde ne sont pas seuls. De même qu'un fil tout seul n'est pas un tissu, un humain, il emploie l'expression runa en quechua, est toujours en ayllu avec d'autres êtres. C'est cela, ayllu. Autrement dit, dans le clan, dans le lignage, dans le groupe totémique, dans l'ayllu, il y a toujours beaucoup plus que des hommes, des femmes et des enfants vivants ou morts. Il y a aussi des animaux, il y a des plantes, il y a des territoires, il y a des divinités, il y a des esprits, il y a des sanctuaires, il y a des pathogènes, il y a des images, il y a des savoir-faire et mille autres choses encore nécessaires à la vie. Et ces composantes, elles sont présentes dès l'origine. Elles sont constitutives de l'unité mixte que forment ces segments et non rajoutées après coup comme une sorte de décor suggestif pour le théâtre des actions humaines ou comme de simples pourvoyeurs de métaphores pour mieux exprimer la socialité de ces actions ainsi que les sciences sociales ont eu tendance à les traiter. Et donc l'idée selon laquelle l'unité d'analyse de l'anthropologie est fournie par les seuls humains est un blocage. Un blocage qui a obscurci l'analyse des dimensions proprement politiques de la vie collective, et même, au fond, si cette configuration intellectuelle anthropocentrée plonge ses racines dans un passé tout à fait estimable, à savoir la lutte contre l'Ancien Régime, la refonte des institutions qui fut à l'époque nécessaire pour s'émanciper des formes sociales pré-révolutionnaires. Car cette refonte dont nos institutions actuelles sont issues, a nécessité une épuration préalable. On a fait sortir les non-humains de la cité pour n'y laisser que les humains, seuls sujets de droit. Et la représentation que les modernes se sont progressivement forgés de leur forme d'association politique, un ensemble d'humains libres et égaux, propriétaires de leur personne, exerçant leur libre arbitre pour se doter d'institutions acceptables par tous, cette représentation a été ensuite implicitement transposée comme le gabarit d'analyse pour les sociétés non modernes, en même temps qu'une myriade de spécificités, à l'instar du partage entre nature et culture, entre croyances et savoir, ou entre faits et valeurs. Et c'est avec cette conception à la fois eurocentrique et anthropocentrique, du politique notamment, qu'il faut pouvoir rompre. Alors que faire ? Comment passer d'un monde uniforme ordonnée par une division majeure entre la nature et les cultures, à des mondes diversifiés dans lesquels humains et non-humains composent une multitude d'assemblages dont on peut néanmoins penser qu'ils répondent à quelques types, lesquels sont autant de transformations les uns des autres. Eh bien, il faut d'abord ne pas s'en tenir à la critique de telle ou telle notion du répertoire sociologique et remonter vers un niveau plus profond d'élaboration du monde commun, en l'occurrence au niveau de la détection des régularités dans le monde, lesquelles, lorsqu'elles sont systématisées, ont pour effet de produire des formes de collectif, des conceptions du sujet, des théories de l'action qui sont propres à de larges univers sociaux. Et en procédant de cette manière, le chercheur ne considère plus les sociétés comme des réalités constituées, ainsi qu'il est d'usage dans les sciences sociales, il cherche plutôt à comprendre comment s'instaurent des collectifs singuliers dont certains, parce qu'ils sont parvenus à destituer les non-humains de leur puissance d'agir politique, se pensent désormais comme des sociétés. Si quelques anthropologues, dont celui qui vous parle, ont placé cette entreprise sous le signe de l'ontologie, c'est un mot qu'on a un peu entendu ce matin déjà, ce n'est aucunement pour revendiquer une annexion par l'anthropologie d'un domaine autrefois réservé à la philosophie. C'est surtout, et plus simplement peut-être, pour insister sur le fait que le niveau où l'analyse anthropologique doit se situer est plus élémentaire que celui où elle a opéré jusqu'à présent. On ne peut pas expliquer le système des différences dans la manière proprement humaine d'habiter le monde en envisageant ces différences comme des produits dérivés de tel ou tel type d'institutions, d'organisations économiques, d'infrastructures techniques, de régimes de valeurs, de visions du monde, bref, de tous ces aspects des collectifs hypostasiés en instance par les sciences sociales afin de mettre en évidence des déterminations. Tous ces aspects me semblent au contraire être les résultats stabilisés d'intuitions plus fondamentales quant à ce que le monde contient et quant aux relations qu'entretiennent ses composantes humaines et non humaines. Et le mot ontologie m'a paru idoine pour désigner ce niveau analytique que l'on pourrait qualifier d'antéprédicatif dans le langage de la phénoménologie, mais qui relève surtout, à mon sens, d'une exigence d'hygiène conceptuelle, à savoir, il faut rechercher les racines de la diversité des humains à un étage plus profond, celui des différences dans les inférences de base qu'ils font en fonction des situations à propos des sortes d'êtres qui peuplent le monde et des façons dont ces êtres se lient. De là découlent les types de collectifs au sein desquels se déroule la vie commune et la nature de leur composition, de là découlent les formes de subjectivation et d'objectivation, de là découlent les régimes de temporalité, les formes de la figuration, de là découle de fait toute la richesse de la vie sociale et culturelle. Alors, une première étape dans ce travail de refondation consiste à mieux définir l'unité d'analyse dont les sciences sociales s'occupent et qu'elles appellent diversement, selon leur domaine de spécialité et selon leurs inflexions nationales, une société, une culture, une communauté, un milieu social, une tribu, un groupe socio-professionnel et bien d'autres termes encore, qui ont tous pour caractéristique de limiter l'ensemble dont on parle aux seuls humains. Je préfère pour ma part le terme de collectif que Bruno Latour a introduit il y a quelques années dans le langage, dans le vocabulaire des sciences sociales, comme un corollaire de la théorie de l'acteur réseau. Il me semble que cette notion de collectif est précieuse, car contrairement à d'autres notions désignant des ensembles organisés d'êtres, elle ne préjuge en aucune façon du contenu de ce qui est associé dans un collectif, ni des modes de l'assemblage. Mais à la différence de Bruno, pour qui le collectif est le produit d'une action littérale de collecte analytique au moyen de laquelle divers types d'êtres et de forces sont associés, moi j'envisage c'est probablement ma formation d'anthropologue spécialiste des peuples non modernes, j'envisage le collectif plutôt comme la forme sous laquelle se présentent à nous diverses sortes d'associations conventionnelles, d'humains et de non-humains, que l'histoire du monde a su imaginer. Parmi ces associations, il y a bien sûr celle si étrange que l'anthropologie s'est donnée pour mission de décrire, cette avec un biais anthropocentrique et en prenant la société des humains comme modèle et point de départ de la vie en commun, mais dont il n'est pas impossible pourtant de restituer la richesse et la complexité architecturale. Et ces formes de stabiliser de collectif n'ont pas été inventées par quelques anthropologues clairvoyants afin de fournir des gabarits analytiques à leurs collègues. Leurs principes de composition sont tout à fait explicites pour les humains qui en sont membres et qui savent fort bien évaluer leur mérite par rapport à ceux qui ont cours dans des collectifs voisins, de sorte qu'il serait absurde et condescendant de réserver l'anthropologie comparative des collectifs aux seuls savants qui auraient su s'extirper du front de modernisation. Bref, un collectif au sens où je l'entends, c'est une forme stabilisée d'association entre des êtres qui peuvent être ontologiquement homogènes ou hétérogènes, et dont aussi bien les principes de composition que les modes de relation entre les composantes sont spécifiables et susceptibles d'être abordés réflexivement par les membres humains de ces assemblages, notamment lorsqu'il s'agit de qualifier des relations avec des collectifs voisins où ces principes et ces modes n'ont pas cours. On le voit, un collectif entendu en ce sens n'est pas homologue aux catégories sociologiques habituelles désignant des associations auxquelles on aurait rajouté en quelque sorte quelques non-humains par souci louable de complétude. Une société plus sa nature, une ethnie plus ses ancêtres, une civilisation plus ses divinités, une catégorie socio-professionnelle plus les outils, les matériaux et les procédures qu'elle utilise. On voit mal dans ce cas quel gain d'intelligibilité pourrait être obtenu puisque les non-humains continueraient à n'être qu'une sorte d'enjolivure rajoutée à un bloc massivement anthropocentrique. Il faut plutôt élucider dans chaque cas les principes de composition de l'assemblage et les rapports qu'il entretient avec d'autres assemblages de même nature ou composés différemment. C'est ce que je voudrais faire maintenant à titre d'exemple en examinant très brièvement un genre d'association qui m'a longtemps occupé, le collectif animiste, lequel se distingue en tout de ce qu'est pour nous une société, puisque les combinaisons qu'il opère entre humains et non-humains n'y prennent pas la forme coutumière à laquelle l'ontologie naturaliste nous a accoutumés. Dans une ontologie animiste, la plupart des non-humains ont une intériorité analogue à celle des humains, ce qui fait d'eux des sujets sociaux de plein droit, mais chaque forme d'être étant aussi dotée de dispositions physiques particulières, elle ne peut avoir accès qu'au segment de monde qu'elle est prédisposée par sa nature à habiter, à utiliser et à actualiser. Donc chaque forme d'être constitue, de ce point de vue-là, un collectif à part, une espèce sociale, si vous voulez, caractérisée par une morphologie, des aptitudes et un type de comportement particulier, un genre de regroupement qui combine les attributs d'une espèce naturelle et ceux d'une tribu. Les tribus-espèces, donc, et notamment les tribus-espèces animales, sont réputées vivre dans des collectifs qui possèdent une structure et des propriétés identiques, et ce sont des sociétés complètes avec des chefs, des chamans, des rituels, etc. Dans tout l'archipel animiste, en Amérique subarctique, en Amazonie, en Sibérie, dans des régions d'Asie du Sud-Est et de Mélanésie, les membres de chaque tribu-espèce partagent ainsi une même apparence physique, un même habitat, un même comportement alimentaire et sont en principe endogames. Il importe ici de noter que les critères de différence de forme et de comportement permettant de distinguer les uns des autres les collectifs non humains sont aussi employés pour distinguer entre les divers collectifs humains. Dans une ontologie animiste, en effet, l'idée d'humanité comme espèce morale, en général, à part, n'a guère de sens. Aussi, chaque classe d'humain qui se différencie des autres par son apparence et par ses manières de faire est-elle conçue comme une tribu-espèce particulière, à l'instar de la tribu-espèce du singe laineux ou de celle du caribou. Car les attributs distinctifs des groupes humains que les modernes voient comme culturels, la coiffure, la parure, le costume, les armes, les outils, les habitations et même la langue, sont au contraire perçus dans l'archipel animiste comme des dispositions physiques analogues à celles qui permettent aux espèces animales de mener des genres de vie différents, des becs, des griffes, des nageoires, des ailes, des branchies, etc. Donc ce que nous, les naturalistes, voyons comme la nature et la surnature, se présente pour les animistes comme un monde peuplé de collectifs sociaux avec lesquels les collectifs humains eux-mêmes différenciés nouent des relations conformément à des normes supposées communes à tous. Quelle forme une cosmopolitique peut-elle prendre dans le cas présent ? Puisque presque tous les êtres sont des personnes, chacune libre et indépendante à l'intérieur du collectif où son existence se déroule, ce ne sont pas les individus humains qui constituent des sujets politiques, ni même les assemblages au sein desquels chaque espèce d'être humain et non humain est associée, des assemblages, en effet, tous autonomes en principe dans l'exercice de leur souveraineté. Non, les véritables sujets politiques, ce sont les relations entre les collectifs. Mal chassé ou d'un petit du gibier que l'on recueille, d'une plante cultivée ou d'une plante sauvage, d'un esprit malfaisant ou d'un esprit protecteur. Et c'est dans ces relations très diverses, de personne à personne, entre humains comme avec les non-humains, que se cristallisent les rapports de monde. Les rapports de monde, ce sont ces rapports qui, selon Jacques Rancière, forment la texture de la politique, beaucoup plus que les rapports de pouvoir, car un sujet politique, ce n'est pas un groupe qui prend conscience de lui-même, qui se donne une voix, qui impose son poids dans la société. Pour citer Rancière, c'est un opérateur qui joint et disjoint les régions, les identités, les fonctions, les capacités existant dans la configuration d'une expérience donnée. Et en ce sens, n'importe quel opérateur, humain ou non humain, est capable de devenir un agent politique s'il parvient à mettre ensemble des choses qui n'ont pas au départ de connexion intrinsèque, notamment parce qu'elles ressortissent en apparence à des régimes ontologiques différents. Et donc le chasseur Hatchoir, avec qui j'ai jadis chassé les identités, les fonctions, les capacités existant dans la configuration d'une expérience donnée. Et en ce sens, n'importe quel opérateur, humain ou non humain, est capable de devenir un agent politique s'il parvient à mettre ensemble des choses qui n'ont pas au départ de connexion intrinsèque, notamment parce qu'elles ressortissent en apparence à des régimes ontologiques différents. Et donc le chasseur Hatchoir, avec qui j'ai jadis chassé,